tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour les auditeurs de Radio MDM, c'est l'émission Les Landes, c'est ma nature. Alors aujourd'hui, il s'agit de la troisième émission consacrée à ma maison passive. J'ai interviewé Stéphane Renoux qui en est à sa troisième maison passive, c'est tout à fait remarquable. Et il nous a expliqué d'une manière extrêmement claire et détaillée les principes de fonctionnement d'une maison passive, d'abord dans une première émission. Puis dans le second volet, il y a 15 jours, nous avons vu avec lui comment isoler de la manière la plus efficace le sol et les ouvertures. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'isolation des combles, mais également à l'étanchéité, c'est-à-dire tout ce qui permet de conditionner les entrées et les sorties d'air dans une maison. Rebonjour Stéphane.
Bonjour Jeanne-Marie.
Stéphane, nous allons donc poursuivre cette émission, et la terminer aujourd'hui d'ailleurs, par l'isolation des fenêtres et des combles. On commence par lequel ?
Le plus simple, c'est les combles. Donc les combles, enfin quand je dis combles, c'est la toiture en réalité, puisqu'il y a des maisons qui sont isolées sous toiture. Donc le plus simple pour isoler une maison, c'est d'avoir des combles, parce qu'il suffit de projeter de l'isolant dans les combles. Aujourd'hui, on cherche des R de 10 dans les combles, à savoir si on isole avec des matériaux traditionnels, à savoir de la boîte de cellulose ou de la laine de verre, il faut s'approcher des 50 cm d'isolant. Voilà, ça c'est la règle d'aujourd'hui pour obtenir le R2-10. Quand on est sous rampant, c'est un peu plus compliqué parce que obtenir 50 cm de laine de verre sous forme de rouleau, c'est plus difficile de faire tenir 50 cm d'isolant sur quelque chose qui est suspendu. C'est plus facile évidemment de le faire sur quelque chose de plat et dans des combles perdus. Mais en tout cas, c'est le résultat. Alors on peut peut-être y parvenir avec des isolants beaucoup plus qualitatifs, plus efficaces, on va dire. Donc encore une fois, la mousse de polyuréthane, où là, on peut se permettre d'avoir 30 cm d'isolant pour obtenir le R2-10. Donc ça, c'est la façon dont on s'occupe des combles ou des toitures en général. Donc c'est quand même relativement simple. Pour ce qui est des fenêtres, c'est un peu plus compliqué, enfin tout est relatif, mais c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a des paramètres dont il faut tenir compte. On n'achète pas une fenêtre au hasard. Ça se choisit en fonction de ce qu'on en fait, de son orientation et de ses matériaux, les matériaux qu'on choisit d'utiliser. Pour résumer, il y a trois grands matériaux. Il y a le PVC, il y a l'aluminium et il y a le bois. Et après, il faut choisir aussi le rapport qualité-prix. Dans ces fenêtres en PVC, c'est les fenêtres les meilleures marchés. Et c'est les fenêtres qui sont les plus efficaces d'un point de vue isolation. Elles ont des petits défauts, à savoir la largeur de leur montant qui impacte un peu plus qu'une fenêtre en aluminium ou en bois sur la partie vitrée. Voilà, ça c'est le défaut du PVC. Un cycle esthétique, ça c'est très relatif et ça c'est lié à chacun. Pour les fenêtres en aluminium, on a des fenêtres qui sont avec des montants minces, comme pour le bois. C'est des fenêtres qui sont plus esthétiques, mais qui ne peuvent pas se placer n'importe où. Donc une fenêtre, ça se choisit en fonction de son orientation, avant tout sur son orientation. Une fenêtre qui est placé au nord, n'a pas du tout la même vocation à être efficace comme une fenêtre orientée au sud. Les fenêtres ont deux grandes caractéristiques dont il faut tenir compte. Alors je vais être un peu technique là dans l'histoire, mais c'est important de l'être, parce que souvent même les vendeurs ne le sont pas. Et choisir une fenêtre uniquement sur un aspect esthétique, moi je trouve ça aberrant. Et j'ai fait l'expérience une fois, j'ai été dans un salon, et j'ai vu une jolie porte, et j'ai demandé au type... elle est jolie cette porte, quel est son coefficient de thermique? Et le type il m'a regardé avec des grands yeux et il ne comprenait pas ce que je lui demandais. Or ce coefficient thermique, eh bien, ça permet de qualifier son degré d'isolation. Donc je reviens aux fenêtres. Les fenêtres sont qualifiées avec un coefficient donc thermique qui s'appelle un UW, W comme Windows. C'est un chiffre qui va de 0 à 6. Et plus il est petit, plus la fenêtre est isolante. Donc, par exemple, une fenêtre en triple vitrage, comme vous pouvez l'imaginer, une fenêtre en triple vitrage est plus efficace d'un point de vue thermique qu'une fenêtre en double vitrage. Une fenêtre en triple vitrage va avoir un UW de 0, minimum 0,7 ou 0,8. Une fenêtre en double vitrage va se trouver autour de 1, 1,2, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Et pour une fenêtre en simple vitrage, telle qu'on les concevait dans les années 50, on est sur des UW de 6 ou 5. C'est pour vous donner un ordre de grandeur.
Alors il y a quand même beaucoup de maisons encore aujourd'hui qui sont louées, je ne sais pas achetées, mais louées, qui ont ce genre de vitrage quand même.
Ben oui, c'est les raisons pour lesquelles ces maisons-là devraient avoir leur fenêtre ou leur porte remplacée. C'est important de le faire, oui, effectivement. Donc une fenêtre qui est, elle a donc un coefficient de transmission thermique, mais elle a aussi un facteur solaire. Un facteur solaire, c'est un SW. Tout à l'heure, j'ai parlé du UW, mais là, c'est du SW. Et c'est à nouveau une caractéristique qui se situe entre 0 et 1. Et un facteur solaire, c'est un chiffre qui permet de qualifier la fenêtre en matière d'apport solaire. C'est-à-dire que si une fenêtre a un bon coefficient, un facteur solaire, c'est-à-dire proche de 1, elle va laisser le soleil rentrer dans la maison pour la chauffer beaucoup plus qu'une fenêtre qui aura un facteur solaire de 0,5. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fenêtre qui a un UW très bas, donc qui est très efficace d'un point de vue thermique, un SW qui est très bas également, donc qui permet moins au soleil de chauffer la maison. Donc, choisir une fenêtre, c'est faire un compromis. C'est trouver un UW en rapport avec l'orientation. C'est-à-dire qu'une fenêtre qu'on met au nord, on va chercher un UW le plus bas possible, parce que cette fenêtre ne sera jamais soumise au soleil et n'aura jamais... on ne va pas demander à une fenêtre au nord de chauffer la maison. C'est impossible. Donc là, on va privilégier des fenêtres qui sont autour de 0,8, 0,9 et on se fiche complet du SW.
Alors dans ce cas-là, c'est la qualité du verre ou est-ce qu'il y a un produit quelconque qui est appliqué à l'intérieur du verre quand il est fabriqué ou dessus?
Alors c'est forcément, quand on dit UW ou SW, il y a le mot Windows. Windows, ça veut dire que c'est l'ensemble de la fenêtre, c'est à la fois les montants, mais aussi le vitrage. Et c'est vrai que le vitrage est qualifié avec un UG comme glace. Donc une fenêtre qui va avoir un UW très efficace, c'est qu'elle a un UG très efficace. Donc un UG d'un triple vitrage est beaucoup plus bas qu'un UG double vitrage. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a un UG qui est plus efficace sur l'une ou sur l'autre, c'est potentiellement des secrets de fabrication des vitriers et dans lequel je n'ai absolument aucune connaissance. Mais en tout cas, ça choisit en fonction de ça. Donc au nord, on va donc privilégier des fenêtres avec des UW donc très bas. Si possible, en PVC, parce que c'est le matériau qui est le plus efficace en matière de thermique. Et puis, par contre, à l'est, à l'ouest ou au sud, les choix doivent être différents. À l'est et à l'ouest, le soleil va venir un petit peu de temps en temps côtoyer les vitrages. Et donc, il n'est pas idiot de laisser rentrer et la chaleur et la lumière. Donc là, il faut trouver un compromis. Donc, il faut... pour ce qui est de l'Est et de l'Ouest, trouver des compromis entre le UW et le SW. Donc un bon UW pour une fenêtre à l'Est ou à l'Ouest, on peut se satisfaire d'un 1,2, 1,4. Pour ce qui est du Sud, là il faut vraiment privilégier le SW sans avoir un UW catastrophique. Mais là, il faut tendre vers le SW, enfin un 1, et puis un UW de 1,6 peut suffire largement. Et là, on a de très bons compromis, quoi.
Alors, si je prends un exemple dans cette maison, tu as toute une série de vitrages qui sont exposés sud-est. Bon. Donc, ils reçoivent le soleil et tu avais choisi ces vitrages en fonction justement de leur qualité.
Voilà, ouais, c'est donc des vitrages qui sont avec des UW de 1,6 en aluminium et avec des SW qui sont, je crois, de 0,8 ou de 0,9. Au contraire, des deux fenêtres qui sont au nord, où là, j'ai du UW de 0,9. J'ai pas pu les trouver en France, curieusement. On n'en trouvait pas, en 2017, on n'en trouvait pas. Et je l'ai été obligé de les faire venir d'Allemagne. Mmh. Donc je crois que ça a un peu changé depuis, mais c'était un peu la contrainte du moment. Ça va généraliser peut-être, mais c'était pas le cas encore en 2017.
Peut-être aussi que bon, l'Allemagne est un peu plus avancée en raison du climat. Et j'allais te dire aussi, dans les pays scandinaves, je pense, parce qu'ils ont depuis très longtemps des triples vitrages. Nous faisons une petite pause pour un morceau de musique que tu vas nous présenter.
Moi, j'ai un compositeur que j'adore, qui est islandais, qui s'appelle Ólafur Arnalds. C'est un peu imprononçable, mais en tout cas, il s'appelle comme ça. Il est islandais et je l'ai connu en regardant une série sur Arte qui s'appelle Broadchurch. Et du coup, je n'écoute plus que lui. Enfin, et là, je vais vous proposer une chanson qui s'appelle Particle. C'est superbe et je vous laisse l'écouter.
nous revoici dans le second volet de cette émission avec Stéphane Renoux pour cette dernière émission consacrée à une maison passive, la maison passive qu'il a déjà construite, même deux maisons passives. Après avoir évoqué tout à l'heure les combles, il nous reste à évoquer les portes dont nous n'avons pas parlé dans les ouvertures et ensuite l'étanchéité, la ventilation.
On peut tenir ce discours aussi par rapport aux portes. Les portes n'ont pas de S, de SD, enfin, puisque il existe donc des U, D comme doors pour les portes. Il n'y a pas de SD puisqu'on ne demande pas à une porte de servir de chauffage l'hiver. Une porte au tête, c'est fait pour permettre l'entrée et la sortie et surtout isoler. Mais malgré tout, il y a des UD très très différents entre les portes. Et c'est important de choisir une porte en fonction de l'UD. Et une porte qui fait 0,7 sera une porte qui sera probablement avec de la mousse de polyuréthane à l'intérieur qui va faire 7-8 cm d'épaisseur. C'est pas franchement une porte qu'on va trouver sous le pied d'un cheval. En France, on trouve plutôt des portes avec 5 cm d'épaisseur qui vont faire des UD de 1,2, 1,3 quoi. Et quand on voit une porte qui est vitrée au milieu, faut pas rêver, hein, ça c'est des portes qui sont avec des UD de 2 ou de 3. C'est assez déplorable.
Nous en avons fini avec la question des ouvertures, puisque nous avons vu dans le premier volet les fenêtres et que tu viens de nous parler des portes là maintenant. Il nous reste maintenant à aborder les questions très importantes de l'étanchéité et de la ventilation. Tu as une opinion sur ces deux questions, qui est une opinion scientifique, dont tu vas nous parler pour essayer de battre un peu en brèche les idées reçues.
Oui, c'est ça. Quand on fait construire une maison passive, ou même quand on fait construire une maison tout court, aujourd'hui, quand elles sont neuves, on les réceptionne. Il y a un organisme, un bureau d'études, qui vient réceptionner la maison et il vient mettre la maison en pression, en dépression, et pour qualifier son étanchéité. La RT 2012, pour donner un ordre de grandeur, la RT 2012 obligeait les constructeurs à faire en sorte que le trou global de la maison, eh bien, tous les petits trous cumulés, une fois cumulés, ne devaient pas dépasser un cercle de l'ordre de 20 cm de diamètre. Voilà, ça c'est la RT 2012, c'était la réglementation la plus exigeante, il y a encore un an. La RE 2020, enfin, en tout cas, les maisons passives, elles acceptent un trou global qui est de l'ordre de 6 cm de diamètre. Il y a la différence. Voilà. Et si on cherche à obtenir des maisons étanches, c'est pas pour qu'elles ne respirent pas. C'est fait pour qu'on maîtrise sa respiration. Parce qu'une maison doit effectivement pouvoir respirer, mais par des ouvertures qui sont dédiées à ça. Et qui sont quantifiés précisément pour pas aller au-delà du nécessaire. Et c'est le rôle de la VMC. La VMC permet de renouveler l'air dans une maison et de la faire respirer la maison sans aller au-delà du nécessaire. C'est ça la fonction de la VMC. Donc il faut chercher à tout craint, que ce soit pour des maisons anciennes qu'on rénove ou pour des maisons neuves, à faire en sorte que les maisons soient proches de l'étanchéité parfaite, je dis bien parfaite, pour qu'on puisse quantifier correctement les ouvertures nécessaires pour qu'elles soient, pour que les VMC puissent fonctionner correctement. Bon, voilà, ça c'est ce que je voulais dire, parce que souvent je suis confronté à ces propos qui sont un peu surannés, qui laissent imaginer que pour une maison qu'une maison en bonne santé, c'est une maison qui a des trous sous les portes ou au-dessus des portes et autour des fenêtres. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut absolument rejeter, quoi. Donc, l'étanchéité est qualifiée par des bureaux d'études, et puis, si elle n'est pas étanche, votre maison, il faut faire en sorte qu'elle le devienne. Donc après, il faut chercher, c'est un travail de tous les instants, quand on fait construire, il faut à chaque instant veiller à ne pas laisser de petits trous où que ce soit. Parlons VMC justement, parce que donc il y a VMC et VMC. Sur les maisons passives ou les maisons peu énergivores, on cherche à faire en sorte que l'air qui rentre dans la maison via la VMC ne rentre pas dans la maison sans avoir été réchauffé au préalable. C'est vrai que jusqu'alors, on faisait des VMC standards où on mettait la maison en dépression et puis l'air rentrait par-dessus, par au-dessus des fenêtres avec des petites ouvertures dédiées à cet effet. Aujourd'hui, on fait autre chose, qu'on passe par on concentre les entrées d'air via des orifices dédiés qui sont réchauffés par l'air sortant. Donc il y a des échangeurs thermiques, on appelle ça des VMC double flux. Donc, on réchauffe l'air qui rentre avec l'air qui sort. Donc un air qui rentre, imaginons, il gèle dehors, avec une VMC standard, vous aspirez l'air qui fait zéro directement dans la maison. Avec une VMC double flux, l'air qui va rentrer à 0 degré va être préchauffé par l'air qui va sortir et de fait va rentrer à 15, 16, 17 degrés. Et donc ça va forcément dans le bon sens. Voilà, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Alors moi j'ai fait un autre système, j'ai préchauffé mon air dans les combles. J'ai fait un espèce de puits canadien dans les combles, j'ai la chance d'avoir beaucoup de surface dans les combles. Donc j'ai passé des tuyaux dans les combles et l'air avant de rentrer passe par 30 mètres de tuyaux et se réchauffe en contact avec l'isolant de la maison. Voilà.
Ça c'est possible dans d'autres maisons. Celle-ci par exemple c'est un ancien hangar, donc il y a une toiture plate. En plus, souvent dans les combles, bon, certes, il y a un plancher, mais après, il y a aussi des toits à pente. Est-ce que c'est gênant ?
Non, je pense que c'est une idée qui pourrait se faire partout. Hein. Seulement, je suis le premier à l'avoir mis en fonctionnement parce que c'est un peu casse-pied à mettre en œuvre. Ça m'a coûté du temps, ça coûte assez peu d'argent parce qu'une VMC double flux de qualité, ça vaut quand même dans les 3000 euros, quoi. Et il faut changer, il faut nettoyer les filtres tous les 2 ou 3 mois. C'est quand même quelque chose qui est assez astreignant. Avec mon système à moi, j'ai pas de filtre, quoi. Voilà. Et il a fallu que je fasse accepter ça par le bureau d'études qui est venu contrôler ma maison. Il a bien voulu me croire, mais ça aurait été quelqu'un de moins intelligent. Il l'aurait peut-être signalé et ça aurait pu me desservir. Mais en réalité, moi, ça marche puisque je constate que l'air qui rentre est à peu près à 18 degrés, ce qui est largement suffisant.
Et par exemple, on ne voit pas forcément les entrées d'air. Elles sont cachées
Non, on les voit là. Tu vois ici, là. Tu les vois au coin, là. Là-bas. Là. Tu vois les trucs ronds Là-bas.
En haut. Ah oui, d'accord. Oui, je vois.
Voilà.
OK. D'accord.
Bon, à la radio, c'est difficile à montrer, mais en tout cas, voilà, oui. Ça ressemble à des ouïes qui sont dans les plafonds et qui sont assez discrètes.
Ouais. Ça ressemble même aux, comment ça s'appelle déjà, les détecteurs de fumée.
Ça ressemble à ça, effectivement, voilà, oui, tout à fait.
D'accord. Bon, donc voilà un problème de régler, c'est celui de...
Voilà, si on veut construire une maison passive, finalement, c'est assez simple, hein, mais il faut y accorder de l'importance.
Oui, il faut passer beaucoup de temps, surtout à suivre le chantier.
C'est ça.
Et puis aussi à préparer le chantier,
bien réfléchir,
voilà.
Tout à fait.
Alors, est-ce que, par exemple, toi, Stéphane, tu accepterais de donner des conseils à des auditeurs s'ils te contactent
Ils peuvent te contacter Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait ouvert à tout ça. Moi, je suis à la retraite depuis 2 ans. Là. Bon, je passe beaucoup de temps au théâtre ou au cinéma, mais... si je peux rencontrer des gens, je serais très content de le faire parce que quand on est à la retraite, quelquefois, on est très content de parler avec des gens tout court.
Oui. Par exemple, ils peuvent contacter Radio MDM qui donnera tes coordonnées.
Tout à fait.
D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Écoute, en tout cas, là, on a fait le tour de la maison, si j'ai bien compris. Moi, je suis dans cette maison pendant l'interview, là, actuellement. Dehors, vraiment, la pression monte, il fait très, très lourd. Et là, à l'intérieur, on est très bien. On est vraiment très bien et ça va être comme ça sûrement tout l'été, j'imagine.
Voilà, sauf en période de canicule où la maison, s'il fait chaud la nuit, s'il fait 27 ou 25 la nuit, l'intérieur de la maison sera toujours à 25 aussi. Et donc, quand le matin va arriver, si la maison est à 25, en fin de journée, ça va monter à 27, hein, comme toutes les maisons. Ça, c'est le problème de la canicule. Et à part habiter un château fort ou avec des maisons avec un mètre de large, ça finit par chauffer... avec le temps.
En fait, il faudrait des maisons enterrées en terre, comme ça se fait en Turquie, par exemple, dans les civilisations traditionnelles.
Ben, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Enfin, bon, là, là on n'est pas embêté par les fenêtres, du coup.
Non. On ne pourra pas loger tout le monde non plus.
Non, effectivement.
Bon, en tout cas, Stéphane, je te remercie infiniment de nous avoir consacré tout ce temps, parce que c'est très précieux actuellement. Je pense que tout ce que tu as dit devrait pouvoir vraiment éveiller la curiosité et donner des idées à nos auditeurs. Et je le dis donc aussi à nos auditeurs, si vous souhaitez avoir davantage d'informations plus précises, par exemple, contactez Radio MDM et demandez les coordonnées de Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Jeanne-Marie. À très bientôt.
Merci. Au revoir. Au revoir, les auditeurs.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.